Je propose encore 30 secondes, là, les derniers arrivants arrivent. Laurent Grune, etc. qui viennent. Alors, Laurent qui vient de, on le dirait pas comme ça, il arrive à pied, mais il vient en fait de Metz par 8 bus. Il a voyagé toute la nuit pour être là avec nous. On peut l'applaudir. Surtout que c'est un bassiste. Les bassistes restent souvent dans l'ombre. Voilà, Laurent, donc c'est ton jour de gloire à Lyon. Alors, avant la table ronde, vous voyez, qui est une table ronde fournie, hein, que François présentera tout à l'heure, on va passer un petit film, un extrait. Alors, c'est un festival de Fourvière dont on a beaucoup parlé, hein, 78. Je le passe parce que vous allez voir, en fait, il y a plusieurs acteurs de la scène punk locale qui sont là. Ça se passe à Fourvière. C'est Marie et les garçons qui jouent. Et puis, ça va mal se passer. Ils vont se faire bombarder de canettes de bière. Et on va voir une solidarité de tous les groupes qui sont là, qui vont monter sur scène pour jouer avec eux. Et je passe juste ça pour montrer ce moment-là. Avant d'enchaîner, puisqu'ils ne sont pas là, Marie et les garçons, Eric Fitoussi nous a accordé une interview. Jean-Gilles Calas n'a pas pu être là pour différentes raisons. Donc les plus anciens, les historiques ne sont pas là, mais ils connaissent le projet. Et en tout cas, ils sont tout à fait d'accord pour qu'on puisse les mobiliser via les archives. Donc voici le Festival de Fourvière 1978. Marie et les garçons qui terminent son show, son set, par cette chanson.
Yeah. faire la prestation la plus controversée de la soirée. Qu'est-ce que vous avez à en dire tout de suite?
En dire que c'était fabuleux.
C'était vraiment fantastique, genre de réaction.
Très bien.
C'est vraiment bien. L'habitude des spectacles controversés. Et là, c'est vraiment ça.
C'est quoi ce soutien? C'est un soutien de professionnel de la musique ou un soutien musical?
Moi, je peux pas parler, je suis pas allé.
Moi non plus.
C'est vrai.
C'est lui.
Moi, j'ai suivi tout le monde. J'ai vu du monde arriver sur scène, je suis allé.
J'ai pas pensé à la solidarité de musiciens, ça je m'en fous. Tout simplement, je sais que je les aime, et puis c'est tout.
On a venu appuyer le fait qu'il faut pas être trop sectaire, c'est tout. Que le gars la foule et corps boogie, c'est super. Que Marie les garçons et corps disco, c'est super. Ce qui est surtout plus, c'est le fait qu'il y ait Marie les garçons et Star Shooter et bijoux et téléphone à la fois. Justement pour voir comment était le public. Et le public, il est resté comme ça, il est resté baba. Bien bonne celle-là.
Que cette musique parce qu'elle nous plaît, on passe dans des festivals comme ça. On s'attend à un genre de réaction. Plus ou moins.
Il y a une dualité entre le reggae et la disco dans votre tête?
Non, pas du tout contre le reggae. Votre papa musique. Avec le reggae, mais pas avec les gens qui sont en face.
Mais les gens qui sont en face, il y en a 300 qui viennent pour Yenavu, 300 qui viennent pour Star Shooter, 300 qui viennent.
Mais tous ces 300 plus ces 300 plus ces 300, toutes les façons abominent la disco. Donc en résumé, ils sont tous contre nous. Le reggae passe très bien. La disco passera dans quelques années.
Salut!
Donc voilà, après ce petit festival de Fourvière 78, où on voit quand même venir sur scène tous les groupes mythiques de la région lyonnaise, mais pas seulement, puisqu'on voit Palmer de Bijoux qui monte, qui arrive avec sa guitare, qui vient affronter le public. On a une sorte de bataille rangée entre les musiciens et le public qui continue à canarder à coups de canettes de bière, dont les musiciens m'ont dit qu'elles étaient pas ouvertes, mais qu'elles étaient pleines. Donc avec intention de nuire, hein, voyez, le public dans la salle, enfin dans les arènes. On va enchaîner avec donc d'autres générations, puisque vous avez là avec au milieu donc François Guillemot qui va animer cette table ronde. Je prends donc pour vous de gauche à droite avec Dom d'Avataria, Zine d'En Brigade, Camille de Venin Carmin, François Guillemot animateur, Fred de Partisan, Scub de Zone Infinie et avec ses fans et Denis Le Carme de l'Enfance Éternelle. François, c'est à toi.
Ok. Merci Philippe, merci à tous, merci Solveig et Luc aussi de m'avoir impliqué dans cette affaire. Je suis très content de me retrouver en très bonne compagnie aujourd'hui avec les témoins d'une scène lyonnaise qui a donc inventé le disco punk, si j'en crois les... On va en reparler. Et en tout cas avec laquelle j'ai participé mes premières émotions, mes premiers pas dans la punkitude parisienne à l'époque, lié à un concert de Star Shooter à Paris, et avec laquelle j'ai eu quelques atomes crochus aussi sur place à Lyon, un peu plus tard. Alors cette table ronde est intitulée « Avoir été, être et devenir punk à Lyon ». C'est Philippe qui a initié cet intitulé. Réunit donc 6 personnes et vraisemblablement 2 générations. La première génération née à la fin des années 60, hein, entre 66 et 68, et la seconde génération née à la fin des années 80, 86, 87, 80, voilà. Et donc, selon les informations que j'ai pu recueillir. Donc on va être vraiment plongé dans peut-être différents aspects du punk. Et je voudrais organiser cette table ronde autour de trois points. Le premier, réfléchir un peu sur le concept du punk en lui-même. Bon, c'est quelque chose qui est récurrent dans les pindes qui se déroule dans les différentes provinces, mais savoir le punk, ça représente quoi, ou c'était quoi, ou intellectuellement, et dans l'action, c'est quoi exactement. Le deuxième point, c'est le parcours personnel de chacun, c'est-à-dire revenir sur des aspects qu'est-ce qui vous a plongé dans le punk, dans cette punkitude, dans cet état d'esprit, dans cette action. Et le troisième point, plutôt sur les réseaux et tout ce qui est collectif, c'est-à-dire dès qu'on fait un groupe, même si on est deux, on est déjà dans du collectif et on est confronté avec la scène à du collectif, comme Marie et les garçons. Là, voilà, on a une confrontation avec le public et donc il y a une aventure collective qui se dessine dès la formation d'un groupe. À moins de, j'ai pas connu de punk complètement solitaire. Il y a toujours eu une filiation à une bande, à un groupe, à quelque chose. Et puis je terminerai par une sorte de quiz. On m'a soumis quelques noms. C'est un collègue de l'ENS qui m'a rappelé ça, d'une aventure qui fut à Lyon parfois violente, autant heureuse que tragique. Et donc je rappellerai quelques noms aux participants pour savoir si ça leur dit quelque chose, si ça leur parle, puisque des gens sont sont nés ici et puis ils sont morts punk aussi dans la rue. Et le punk et la rue d'ailleurs est une véritable thématique qu'il faudrait peut-être creuser encore plus, la relation du punk à l'espace, à sa rue, à son territoire. Voilà, donc Philippe a présenté rapidement, mais on va commencer par Scud, qui est le plus jeune d'entre nous, et moi le plus ancien, puisque je suis né en 63 et lui en 87, il me semble. Hein, et donc, pour te présenter, tu prends un micro et puis...
Je me présente, c'est-à-dire que j'énonce mes activités.
Ouais, c'est ça. C'est
voilà,
ça.
Donc voilà, je suis né en 87. Actuellement, qu'est-ce qu'on peut dire que je fais ? Je joue dans un groupe qui s'appelle Zone Infinie. Je suis chanteur, puis j'animais une émission de radio, mais j'ai été interdit de l'animer.
Récemment ?
Récemment, par l'État. Voilà. Mais là, je crois que j'ai le droit de l'animer, donc peut-être que je vais la réanimer. Voilà.
Donc t'es fiché P, alors, punk, c'est ça ?
Je ne sais pas en quoi je suis fiché, en fait, mais c'est pas une blague à 2 balles. En tout cas, c'est une blague à 1500 balles. Donc voilà. Bref.
Lula, Camille, à toi ? Tu te présentes aussi ? Lula, pour la petite histoire, elle a joué hier. Elle va peut-être vous raconter. Donc, elle s'est couchée à 8 heures du matin. Je crois.
Bonjour, j'ai fumé des clopes aussi. Non, je m'appelle Camille. Je suis dans un groupe qui s'appelle Venin Carmin. Je suis sur Lyon depuis pas trop longtemps. J'ai grandi entre les cours de piano et la danse classique. Et au bout d'un moment, il y a un truc qui s'est produit et j'en suis venue. J'ai gardé le rose des tutus. Mais j'en suis venue au punk et voilà, je suis pas interdite d'émission de radio, mais voilà, c'est tout. Dean ?
Ah ouais, après je crois que c'est quoi, Laurent ?
Moi j'ai envie de commencer par la fin, j'ai envie de dire que le nom de son groupe, là, L'Enfance éternelle, c'est un bon résumé du punk rock. Enfin voilà, déjà pour commencer, moi j'ai joué dans N-Brigade dans les années 80, je suis venu au punk parce que les groupes qu'on a vus avant, ça faisait un peu office de grand frère, je rajouterais carte de séjour parce qu'il n'y avait pas de, c'était pas spécialement un style musical... À part entière, c'était surtout une urgence de d'être différent, une urgence de prendre les scènes d'assaut. Alors contrairement à nos aînés qui ont signé dans des majeures compagnies, etc., la deuxième vague punk, elle est beaucoup plus axée sur les réseaux, les structures alternatives, les squats, le combat politique, et on y parlera de ça après. Ok.
Bon bah, moi je suis Dom, je suis un peu le bout de charbon de la bande là, parce que je suis de Saint-Étienne. Je me retrouve dans la discussion dans une soirée après une soirée de concert, voilà. Je fais des concerts et de la radio depuis que je suis tout petit, donc radio SWK si ça parle, radio qui s'est vendue après au réseau, comme pas mal de choses qui se sont vendues, et puis en activité récente, je faisais un festival qui s'appelait Avatarium et qui se déroulait au musée de la mine à Saint-Étienne, parce que en tant que Stéphanois très proche de la vie locale, il nous semblait plus que pertinent de retourner creuser nos racines.
Alors moi c'est Fred des Partisans, un peu plus jeune, je jouais aussi dans un groupe qui s'appelait Social Négative. Donc moi, je suis arrivé au punk via des disques qui sont rentrés à la maison, grâce à mes frangines. Moi, j'ai été marqué tout de suite par un esthétisme, une espèce de modernité, qu'il n'y avait pas autour de moi. Et puis, c'est vrai que ça a été dit tout à l'heure, les jeunes qui écoutaient du rock début des années 80 écoutaient surtout du hard rock. Et bon, c'était pas quelque chose qui me touchait, voilà. Donc instinctivement, je suis plutôt allé vers le punk.
Donc moi c'est Denis. Donc qu'est-ce que je peux dire ? En 78, j'avais 14 ans, et donc je suis rentré dans la mouvance punk, disons. Et après, on a fait des projets, donc. On est tout de suite dès qu'on a écouté la musique, on a voulu faire quelque chose. Et du coup, après on a fait donc N, après Discipline, et puis après L'Enfance éternelle, quoi.
Ok. On va rebondir justement sur la peut-être à partir de toi sur c'est quoi le punk à ce moment-là, ça représente quoi et aujourd'hui encore à ce niveau-là, parce que là tu parles d'un passage d'une ouais. passage à l'acte, ouais. passage à l'action tout de suite, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui te pousse.
C'est vraiment un truc, on ne s'est pas posé la question, on ne savait pas jouer c'est du ça, tout.
Bien sûr.
C'était chez un pote et du coup on s'est mis à jouer dans l'appartement quoi. Enfin c'était vraiment naturel et voilà quoi.
Qui veut répondre à ça sur le Laurence, ce que représente le punk à ce niveau-là, parce que toi tu parles plutôt de d'une vision de la deuxième génération, quoi, disons, plus, peut-être plus politique.
Ouais, alors on est vraiment influencé par la première. Hein. On commence à écouter, je sais pas, les Clash, les Jam. Et il y a un discours qui nous cause dans le poste, un discours social, politique. Et puis surtout, en fait, on nous invite à faire les choses par nous-mêmes. Ouais. Donc si t'aimes pas la musique ambiante, bah, tu fais ton groupe. Si t'aimes pas le média, tu fais ton fanzine. Si t'aimes pas, si t'as pas envie de signer sur CBS, tu crées ton label. Et c'est parti direct sur un truc comme ça. Ouais. En plus, il y a eu la libération des radios libres en 81. Donc du coup, bah, on faisait tous des émissions de radio sur Canu, sur ailleurs. En fait, on faisait ce qu'on voulait. C'est une énorme...
c'est une prise de liberté.
Liberté. Et puis, il y a une urgence. Le fait, la musique, elle rentre dedans. Elle est un peu underground, anti-système. Elle est vraiment politique. Et puis, après, moi, je suis rentré dans une brigade parce que je faisais des graffitis sur les murs d'une église ou parce que j'écrivais au marqueur sur les tables de mon lycée. C'est comme ça que j'ai rencontré le guitariste d'une brigade qui m'a dit, bah, tiens, tu veux pas chanter? Je vais jamais chanter. C'était un peu, on tirait à pile ou face qui sait qui allait faire chanteur ou guitariste. Et puis, on répétait dans un gymnase, on mettait des vous savez, les grands tapis bleus là, pour faire du son en hauteur. On en mettait quatre comme ça, on répétait au milieu du gymnase. Donc, c'était vraiment de la débrouille. Et puis voilà, il y avait une urgence de. Ça me parlait parce que c'était la musique qui foutait en l'air. Tous les trucs progressifs, les trucs de hard rock, machin, il y avait ce côté hyper rentre-dedans. Et en plus, quand même, avec mixé, avec des trucs, les trucs qu'on avait un peu vus, les Clash faisaient du reggae, les Jam faisaient un peu de la soul. Donc voilà, il y avait le truc, on pouvait s'inscrire dans une espèce d'histoire de rébellion hein, ou d'alternative directement avec le punk rock.
Et toi, Fred, justement, ça, tu... En fait, c'est pas véritablement le punk qui t'a motivé, puisque t'avais des goûts musicaux qui sont plus vers la soul, vers c'est ça.
Non, mais non, vas-y. Un petit peu comme Laurent, effectivement. Ouais. Le punk a amené cette curiosité culturelle à remonter dans le temps. C'est vrai que les Clash m'ont mis une claque à 12-13 ans, et ils reprenaient des standards de reggae, Police and Thieves. Des standards de rock 60s, I Fox the Law, et alors bien plus tard, hein, je vais pas dire que à 13 ans on comprend tout de suite de quoi il s'agit, jusqu'à l'âge de 17 ans on reste quand même un petit peu dans l'instinct. Et effectivement la politique elle est tout de suite là, parce que les années 80 c'est quand même une période politique en France. Le PC fait encore 15, 16, 17%. La gauche, elle est au pouvoir. Et puis, il y a des mouvements... comment dire ? Il y a une espèce de sens de l'histoire. Enfin, on a l'impression qu'on est quand même dans une modernité et un sens de l'histoire qui va aboutir quelque part. On participe un peu à ça. Je pense aux grèves des mineurs en Angleterre. Il y a le mouvement punk qui se mobilise aussi contre l'apartheid en Angleterre. Mais c'est pas que ça. Alors, comment dire ? Moi, j'ai été très impressionné par les textes aussi des chansons des groupes punk. J'étais un gros fan de Starshooter aussi. Même si c'était pas forcément très aisé à 14-15 ans de comprendre ce que les groupes anglais pouvaient chanter. Moi, c'est vrai que j'ai... comme Laurent...
D'où l'importance de la musique et de oui. l'énergie qui se dégageait. Parce oui. que des fois, on ne comprenait pas du tout, ou on comprenait 10% du texte, mais l'important, c'était le rentre-dedans. Oui. On parlait Star Shooter. C'est vrai que mon expérience de Star Shooter, c'est juin 1978, un festival d'avant-garde donc de la jeunesse communiste à Ivry-sur-Seine. Et Star Shooter arrive sur scène en plein après-midi avec des t-shirts rose fluo, des faucilles et marteaux vert fluo et en sautant partout. Avec ce côté gag et ce côté allez vous faire foutre. Et c'est vrai que ça dépotait. Donc tout à l'heure, notre camarade a parlé de la prosodie. Et c'est vrai que Kent avait une prosodie extrêmement rapide. Et à côté, Téléphone et Higelin qui passaient dans le même festival de soir, c'était très, très baba cool. Donc il y avait un côté Starshoot qui était, comme tu dis, des influences Cochrane, tout ça, mais rentre dedans, rebelle et fun en même temps. C'est-à-dire qu'il y avait un côté vraiment destiné à notre jeunesse qu'on pouvait plus, quoi.
Moi, c'est la contestation, c'est tout pété, quoi. C'est une place pour les bons à rien, parce que la société, elle a toujours été occupée pour ceux qui savent faire, pour ceux qui ont du pognon, pour ceux qui ont des savoir-faire et qui font les bonnes écoles. Le punk, c'est des voyous, les punks. C'est ça dont il s'agit. Il n'y a pas de spéculation intellectuelle à avoir là-dessus. C'est nous, les bons à rien, on va vous la mettre profond. C'est ça dont il s'agit.
Ça, c'est vrai.
Ouais,
c'est une rébellion contre la société de consommation.
Ouais, je suis d'accord.
Dans la culture, là. On est même dans l'anticulture, quoi. C'est aller vous faire bénir.
Bien sûr, mais tu construis autre chose.
C'est détruire les codes. C'est uniquement tout casser.
Bien sûr, bien sûr. Mais
rien sinon un beau pesnaire.
Oui, oui, tout à fait.
Donc là, c'était Marie-Claire qui, dont vous avez pu voir, et quelques panneaux qu'elle a commencé à faire, et qui sera là cet après-midi aussi.
Ta première.
Sa première.
Mais bon, à partir du moment où tu prends, où tu élabores un fanzine par tes propres mains, où tu élabores une pochette de disque, t'es déjà dans la création d'une culture, d'une autre culture, mais de quelque chose qui, surtout si elle reste. Alors, elle était au départ prévue pour être éphémère. Pour être brûlé, pour ne pas rester. Et c'est vrai que l'ambivalence de la question punk, c'est que on réfléchit sur un objet qui devait être détruit ou s'autodétruire et qui persiste et signe sous d'autres formes.
La question reste la même.
Donc, ce que si tu veux dire.
Je ne sais pas. Continue sur le truc. Voilà. Salut Décathlon. Bref, je sais pas. Donc si je peux continuer sur le sujet, moi quand je me suis intéressé au punk, c'est déjà un truc de vieux, quoi. L'urgence, elle est lointaine. Moi personnellement, j'étais dans un bahut fin fond de la vallée du Gier, donc un rive de Gier. Pour ceux qui connaissent, c'est vachement bien.
Je vous l'ai fait. Ouais. J'arrive de Gier, j'étais à Moulin à Vent.
Voilà. Donc ouais, c'est des cultures mi-banlieusardes, mi-beauf, tout ça. Et le punk, je sais même pas comment, en fait, moi c'est un putain d'accident quand y pense. Mon frère, il a acheté un espèce de magazine dans un bureau de tabac. Lui, il écoutait Offspring, enfin c'était la honte un peu quand même. Il était à fond de ça, mais en fait, là-dessus, il y avait... Après mon frère, on le respecte, hein. Mais il y avait une compile, du coup, et sur cette compile-là, il y avait pas mal de... Ouais, c'était la suite de l'alternatif, le punk des années 90, un truc comme ça. J'avais 11 ans, il y avait pas mal de groupes à chier, mais il y avait des trucs qui me plaisaient quand même vachement. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Après, nous, on arrive dans une période où franchement, tout est assez creux. On va dire le mouvement contre-culturel pour les jeunes, c'est la teuf. Pour les jeunes blancs, hein, parce que je dis, il y avait le rap, tout ça. Moi, après, mes meilleurs potes au lycée, c'était des rappeurs aussi. Mais je pouvais pas non plus complètement m'identifier à ça, parce qu'il y avait quand même quelque chose de lointain. Pour moi, c'est un truc de fils d'immigré, même si moi, je suis un fils d'immigré de troisième génération. M'identifier à ça, c'était difficile. Donc, il faut un truc rock, et il y a le punk, un truc vieux, finalement. Et nous, on arrive à Saint-Étienne après, parce qu'on arrive de Gier, il faut quand même bouger de là, parce que sinon... Tu finis.
Tu deviens comme les autres.
C'est-à-dire
que l'environnement.
T'as le choix entre bricoler ta mobilette ou faire semblant que t'as un lascar, quoi. Du coup, moi j'ai fait un peu des deux. J'étais pas très bon, quoi. Et du coup, on est monté à Saint-Étienne. Et voilà, Saint-Étienne, à l'époque, par contre, il y a toute cette descendance, en fait, de la scène alternative, finalement, le rock alternatif qui a marqué cette ville, comme pas mal de villes en province, je pense. En fait, c'est un truc que le rock alternatif a creusé. Et quand on arrive à Saint-Etienne, il y a des réseaux déjà bien faits, des gens qui ont déjà... Bon, on est très peu à avoir mon âge, finalement, à avoir 15-16 ans, on est une dizaine, quoi, même pas. Et en plus, avec ceux qui restent après, on va se retrouver progressivement à 2, 3. Les gens qui font cette scène-là, ils ont déjà 30, 40 ans, voire 50. Non, 50 à cette époque-là, peut-être pas. Maintenant, oui. Et voilà. Par contre, on a accès à une putain de culture. On a tout plein de concerts, chaque semaine... Une scène internationalisée, plein de groupes, voilà. Puis un truc à ces zones où on peut monter en ville, enfin faire autre chose qu'être un lascar ou être un beauf de campagne, rencontrer un peu des groupes hétérogènes qui traînent dans la rue, je sais pas, entre 13 et 19 ans. On est avant Sarkozy, après Sarkozy va nettoyer tout ça. Mais quand on arrive à ce moment-là, on peut encore trouver des places où tu peux te mélanger entre jeunes paumés. Donc il y a des fugueurs, il y en a qui rentrent chez leur mère, comme moi, et plein d'autres choses. Il y a ce truc-là attirant aussi de violence, de légende de la rue, ou je sais pas quoi. Moi, j'y suis à moitié, enfin, c'est pas vraiment mon truc. Mais il y a ce truc-là qui est attirant. Et voilà, donc Saint-Etienne, à l'époque, c'est quelque chose de prolifique, quoi. Il y a pas mal de groupes, voilà. Donc après, la musique, c'est du hardcore, du crust. Moi, j'aimais bien les trucs en français, donc forcément, on se rattache plus au rock alternatif. Parce que c'est la dernière chose intéressante qui a été faite pour nous, quoi. Ça parle en français, c'est des choses qui nous parlent et tout. Après, on a accès à tout plein de groupes. Voilà.
Pas facile de rebondir, mais du coup, ouais, sur Synthé, c'était... en fait, par rapport à ce qu'on peut appeler l'urgence punk, il n'y avait rien du tout à Synthé. Du coup, on s'organisait pour venir voir de temps en temps des concerts à Lyon.
Il fallait la créer, l'urgence, alors.
Il fallait la créer, ouais. Et du coup, ça s'est complètement fait par... En fait, ça s'est complètement... toujours fait par hasard de rencontre, hasard, il y avait les grands frères qui faisaient leur label, Kronstadt Tapes, qui commençaient à sortir des trucs, qui ont fini par faire les albums d'OTH et choses comme ça et tout, et en fait c'était juste évident qu'il fallait qu'on fasse du bruit, des concerts, il n'y avait rien d'autre à faire en fait, je pense qu'il n'y avait même pas de réflexion à ce moment-là, je ne suis pas sûr qu'il y avait de réflexion culturelle, je suis assez d'accord avec ce que disait Marie-Claire tout à l'heure. Ouais, on n'avait rien, du coup, il fallait il y avait une réaction, on voulait juste pas vivre dans ce monde-là, en fait, pour plein de raisons différentes, chacun a des parcours complètement différents, mais on voulait juste pas être dans ce monde-là. Et c'est vrai que l'existence du punk, moi, au-delà d'une culture, c'est une connexion. C'est-à-dire je vais reprendre encore des évidences, mais on a vu qu'il y avait des copains qui faisaient des fanzines, qu'on pouvait faire des fanzines, qu'on pouvait s'organiser, qu'on pouvait. Une mise en réseau qui devenait évidente. On était juste dans ce réseau, en fait. On était un élément du réseau. Enfin, moi, j'ai jamais fait partie d'un groupe, donc je me voyais vraiment comme une des pièces d'un réseau. Qui relayait plein de choses et qui permettait aussi de rencontrer plein de gens dans une ville où il n'y a pas grand-chose.
Ouais, et puis il y a plein de punks qui n'ont pas fait de groupe non plus, mais qui étaient avec les groupes ou qui suivaient ou qui étaient sur la scène.
Après, juste pour finir sur l'histoire des codes aussi, je revois une vidéo, alors je leur situe mal, parce que je commence à être un petit peu, je fais partie de la, je ne sais pas quelle génération, un peu la vieille, quoi, celle qui a les cheveux blancs. Je revois une vidéo de quelqu'un justement qui parlait de code par rapport au punk et on voit un premier concert, le public devant une salle d'un premier concert, je crois que c'est un concert des Pistols, où les gens sont complètement mais allumés dans la façon de s'habiller, il n'y a aucune règle en fait, aucune règle, tout est fabriqué, il n'y a pas de marque, il n'y a pas de code. Et on voit un concert de Killing Joke, peu de temps après, où là on voit une file de gens habillés tout en noir, comme nous, et avec le même perfecto, avec écrit le nom de leur groupe dans le dos, et à la fin du film, elle dit « Punk is dead ». En fait...
Ouais, mais ça c'est...
Bon, c'est la couverture de l'album de Stevie Zolfinger, c'est un code barre. Donc de toute façon, après, savoir si on est récupéré ou pas, de toute façon, c'est même pas la question à se poser, à mon avis. C'est sûr qu'on est récupéré. Mais l'urgence de faire un truc au début, elle est aussi politique. Clairement politique. Nous, on allait bomber sur les églises, crash sur la croix, donc il y a un truc déjà hyper anti-clérical, surtout à Lyon, quoi. Il y a un truc aussi par rapport aux bourgeois, quoi. On était fils de prole, donc il y a tout de suite un positionnement, je peux dire marxiste, mais quand même, en tout cas, après, on vire plutôt sur, pardon? Ouais, ouais, carrément, ouais. Puis d'ailleurs, ça existe encore, hein. Faut pas croire ce qu'on vous a dit depuis la chute du mur de Berlin. Hein. Donc, après que les gens partent sur des histoires libertaires ou pas, ok. Mais il y a ce truc. Et il y a ce truc, enfin, tout bête, hein, mais do it yourself, do it together. Et tu sais que c'est possible. Mais là, c'est pas un autre monde est possible à la téléphone. Je vais aller me balader main dans la main à New York avec toi. C'est là, on va le faire. Et on va faire des squats, donc on commence à faire des concerts dans des squats, que ce soit avec ceux qui deviendront le Pesner après, que ce soit avec ceux qui deviendront Avatarium après. Il y a tout un réseau qui se met en place, l'îlot 13 à Genève, enfin l'exit à la Croix-Rousse, les Raptou, Volnitsa, enfin bref, il y a des gens plutôt côté un petit peu anarcho, libertaire et tout, et ça envoie du bois. Après, sur les histoires de musique, tu parlais du rap. Moi, les mecs, le rap, quand ils sont arrivés, pour moi, c'était des punks. C'est pareil. Pour moi, c'est un état d'esprit, en fait.
Mais ça, c'est sûr et certain.
Nous, on a organisé un concert, le premier concert d'NTM, c'était dans un squat.
Bien sûr, mais après, ça, c'est l'Utopie depuis des débuts. C'est l'Utopie depuis des débuts. Faut voir
c'est plus, voilà. Puisque les frontières musicales, elles n'existaient pas, il y a une urgence.
Ça s'est fait après.
De tout foutre en l'air pour tout reconstruire et surtout de faire le truc à notre façon. Ouais, et nous-mêmes.
Ça, c'est une utopie de mélanger les publics rap et punk. Ça, par contre, utopique. C'est un truc qui n'a jamais eu lieu, quoi.
Ouais, mais bon, après.
Camille, comment tu le.
Oui, public ennemi, parce qu'ils reprennent les trucs des clashs et tout, mais...
C'est aussi une époque dans la musique où les choses se mélangent.
Il y a beaucoup de mélanges. Ouais. On parlait de Saint-Etienne, Babylon Fighters aussi, oui, et plein de groupes qui pratiquaient des styles musicaux, mais ça, dès l'émergence du punk, Patti Smith, c'était-elle punk, point d'interrogation, quoi.
Mais on avait des Saint-Etienne, groupes...
Suicide,
je parle pas de cloisonnement, au contraire.
Voilà. Donc c'est vrai que le punk était extrêmement divers entre les Lady and the Outlaws qui a une pochette vraiment qui est punk et leur musique qui est du pop rock et d'autres. Voilà, c'est sûr. Mais c'était beaucoup plus ouvert parce que après c'est sûr qu'il y a un esprit de clan et je raconterai ça plus tard le 23 parce que j'apprends un esprit de milice aussi. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de clarifier les choses et de séparer le politique et tout ça. Je voudrais rebondir sur ton expérience à toi, Camille, en tant que praticienne quoi, de groupe et la relation avec le public et comment tu vois cet univers punk. Est-ce qu'il te parle ?
Je sais pas trop. En fait, pour redire ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est vrai que nous, on est plus jeunes, donc déjà, aborder le punk, c'est super superficiel. On l'aborde que de cette manière, pour moi, de manière superficielle. Quand t'es ado, t'es un peu énervé, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu prends ton package punk, où t'as déjà toute l'esthétique qui est faite, et c'est après, plus tard, que tu t'intéresses à peu près, au côté politique de la chose et à ses racines. Moi, j'ai pas vécu tout ça. Puis après, quand t'as la dénomination qu'est-ce qui est punk et tout, effectivement, je trouve qu'il y a c'est très codé. Arriver plus tard dans ce milieu et puis en plus, l'étiquette, dire on est punk ou pas, perso, moi je m'en branle un peu, quoi. Mais t'as l'impression que de toute façon, quoi que tu fasses, t'es pas un vrai. Et non, je crois que pour tout résumer, je crois que je m'en branle en fait.
Bon, mais tu puisses ce que tu veux dans le package punk, parce que le package punk il est tellement divers. Tu prends les Slits, elles étaient là, elles étaient différentes aussi des autres.
Ah mais c'est encore un aspect politique pour donc, moi, les Slits, donc, plus que musical.
Et en tant que fille, parce qu'on parlait beaucoup, c'était un monde de jeunes blancs, de jeunes mecs, souvent très jeunes. Hein, moi, c'est vrai, comme toi, je suis rentré dans ce mouvement à 14 ans. Donc c'est vrai qu'il y a eu ce côté, ça a été éphémère, puisque ça a duré 2 ans quasiment. Mais il y a ce côté, c'est souvent des jeunes mecs. Et donc, ta réflexion par rapport à ça. Il y a plus de filles maintenant. Il y a plus de
Encore que nous, c'est dans le débat, mais c'est super compliqué.
Encore que nous, on était fascinés par Siouxsie et des groupes qui étaient vraiment des groupes tenus par des filles et qui avaient des choses à dire.
Être fille dans la musique, c'est encore un autre truc, mais c'est. Non seulement, c'est ambivalent, c'est-à-dire que t'as tout le monde qui te dira que t'es programmée plus facilement parce que t'es une fille et que enfin voilà, y a plein de mecs qui deviennent teubés dès qu'ils voient une fille avec un instrument dans les mains, quoi. Et mais parallèlement, t'es super attendu au tournant, quoi, parce qu'il faut que tu fasses beaucoup mieux, faut que tu prouves en fait que bah tu sais jouer de ton instrument, que non, t'es pas là juste parce que t'es une fille, mais de toute façon, ce sera jamais assez, donc. C'est toujours problématique, mais après je m'en branle aussi de ça, ouais, tu vois.
T'as raison. T'as raison. Voilà. Je pense que les artistes femmes, je veux dire Patti Smith, des gens comme ça, sont des gens aussi qui...
Après, nous on s'est retrouvés dans des structures où les chefs, entre guillemets, il n'y avait pas de chef, mais c'était des filles. Hein. Donc ouais. Hornets ou Pesner, dans Condense, voilà, et puis ou même dans une brigade, enfin je veux dire. Ça, d'entrée, c'était clair, quoi. D'ailleurs, le premier truc des concerts punk, c'est dès qu'il y a des relous, ce qui n'aide ou pas, hein, mais qui font chier les filles, le but, c'est de les virer direct de la salle. Donc, il y avait déjà un truc quand même comme ça. Je ne veux pas dire qu'on était féministes avant l'heure, mais c'était normal, en fait.
Ouais.
Ça me paraît hyper normal, quoi. Il n'y avait pas de truc...
Alors, je voudrais vous soumettre quelques noms, mais je ne sais pas si ça va vous parler. Qu'on m'a donné comme ça. On m'a parlé de Punkoff, qui était un mec qui ressemblait à Barracuda, vous savez, le black avec une crête, qui était sur Saint-Jean et qui était une sorte de chef de bande. Ça, je ne sais pas si vous dit quelque chose.
Je l'ai connu parce qu'il était le maraîcher. Puis, lui, à Volnitza, on l'a viré parce qu'il braquait des gens, il braquait des gamins du quartier de la Croix-Rousse et on l'a viré. Quoi.
D'accord.
Maintenant, personnellement, des gens du squat de maraîcher. De ce squat-là, j'en ai connu après à Paris, qui sont devenus très bien, mais Punkab, il nous a vraiment fait chier.
D'accord. Le grand Manu, qui était sur Saint-Paul, qui était aussi quelqu'un apparemment d'assez... je sais pas, ça vous dit quelque chose ? Pivert, qui était sur Perrache, avec un mec qui s'appelait Baleine. Pareil qu'il est décédé, mais je... Bon, c'est des punks de la rue, donc c'est des punks qui ont évolué dans la rue, qui sont pas forcément... Parce que c'est vrai qu'on avait aussi ce phénomène-là un peu à Paris, c'est-à-dire qu'on avait des gens dans la rue, et qui était très car pour les concerts. Donc du coup, il rentrait même pas. Donc il braquait les autres pour rentrer. Donc, tu parlais des pentes de la Croix-Rousse, Rida, Francky, Quasimodo. Ah ben voilà. Et puis, on m'a parlé pas mal de Baston. Alors parce que j'évoquais ce qui se passait un peu à Paris, tout ça, et des bastons avec les FAF ou avec d'autres gens, quoi. Le rapport à la société devait être assez compliqué quand même.
Et surtout, on courait vite, quoi.
Courait vite, ouais. Mais tu parlais du contexte lyonnais qui est intéressant, c'est ce côté religieux et ce côté conservateur. Et c'est quoi être punk, justement ? C'est perçu comment dans hier comme aujourd'hui ?
Déjà, quand on avait 16 ans, quand on allait au concert au West Side, il y avait un seul dans la bande qui avait un perfecto parce que ça valait quand même super cher, mais par contre on était obligé de planquer sous des bagnoles à 1 km de la salle parce que sinon de toute façon on allait finir dépouillé. Alors ça, c'était au début où tout le monde, il y avait les mods, les rockers, les skins, les punks, les machins, enfin, les corbeaux, enfin je sais pas quoi, c'était très très très
catégorisé.
Ça l'est devenu plus. Vu que les musiques se sont complètement mélangées, on allait voir autant, on peut aller voir Steve, mais autant les Cure que Dead Can Dance, ou donc ouais, on allait voir toutes sortes de voilà. Donc en fait, je pense que ça s'est, et puis on s'est mis à écouter de la noise avec Central Service. Donc ça c'est, je pense que c'est là. Et puis surtout, il y a eu un truc à Lyon. Alors les skins étaient marqués. Alors il y avait beaucoup de skins qui n'étaient pas faf, hein, puisqu'il y en avait même dans le following de N Brigade ou des partisans. Certains d'entre nous étaient skinhead, mais plus on venait plus de Trojan Records ou enfin voilà le skinhead de base, voire Red Skin. Mais effectivement à Lyon il y a eu beaucoup de faf ou de gros lourds. À tout le moins gros lourd, quoi. Et sauf que en fait, vu que ça coïncidait aussi avec la montée du Front National en 84 et tout, donc notamment Journée Libertaire, par exemple, concert BRU, une brigade, voilà. Donc c'est parti quand même directement là-dessus. Ouais, 84, ouais, exactement. Donc on s'est, il y a eu quand même directement un affrontement où je me rappelle que parfois, bon, ils étaient plutôt plus nombreux, plus forts, plus gros. Donc en gros. En gros, c'était du style ah bah tiens Zine, faudra peut-être pas trop que tu traînes dans le centre-ville là pendant 2-3 mois parce qu'on est un petit peu wanted. Donc ça se passait comme ça. Le seul comment on a fait pour pas trop se faire casser la tête, c'est que de temps en temps on se rencontrait à Gerland au stade de l'OL et ils disaient mais qu'est-ce que tu fous là et tout. Enfin bon, même si j'étais aussi supporter de l'ASS, hein, je fais pas de trucs là-dessus. Mais il y a eu un gros truc à Lyon et à un moment. Avec les nanas de Larsen qui étaient à l'MJC Doulin et quelques gens, on s'est dit là, il faut que ça cesse. Et ça a cessé quand on a organisé un concert à la Bourse du Travail, toujours, d'ailleurs, avec Berger et Noir, et on a fait appel à vos services, en tout cas, en 88, voilà, à vos services. En tout cas, on a appelé les autonomes de Paris, voilà, les Redskins de Paris, pour venir se battre contre les FAF lyonnais. Puisque nous, on était déjà de toute façon en réseau, puisque dès le début, hein, quand je parle de réseau, pour moi le punk c'est un truc collectif, vraiment, puisque dès le début, on a monté un truc, ça s'appelait la fraction rock terroriste, il y avait des groupes de Grenoble, il y avait des groupes de Saint-Étienne, il y avait des groupes de Dijon, on a tout de suite été en contact avec Patrice de New Wave à Paris, Tapage Nocturne, Marsu de Beru, machin d'Ilo 13, donc il y avait vraiment un truc de réseau, et le réseau a été du coup solidaire avec nous, puisque à Lyon, il y avait effectivement beaucoup de femmes et que ça devenait hyper compliqué de faire des concerts où que ce soit. Il y en a encore beaucoup, ouais. Mais il s'intéresse. Ouais, ok. Et du coup, il y en a encore beaucoup, mais bon, il s'intéresse un peu moins à la musique, j'ai l'impression qu'il. Enfin, ça, j'en sais rien, en fait.
Tu veux rebondir ? Vas-y.
En général, sur comment tout ça a évolué, tout ça, parce que pour moi, ça me paraît assez lointain, voire presque émouvant, ces histoires de loubar, faf, plus ou moins de confrontation un peu d'homme à machin, avec, enfin, quoique il y a dû avoir des trucs très lâches, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que le fascisme, il a muté depuis à Lyon, il est encore très présent, et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a un gros concert punk à Lyon, avec une affiche, genre, je sais pas, même un truc à la con, UK Subs, qui est pas du tout un groupe faf, quand on se ramène à ce truc-là, on se tape tous les vieux faf de Lyon qui sont en équipe avec leurs jeunes, qui sont encore sur le côté. Donc en fait, le fascisme, il a ce truc-là. Après, tout ce qui est concert en squat, alternatif, ils y foutent plus les pieds. Mais après, ce truc-là, il s'est structuré d'une autre manière à Lyon. Il existe vraiment aujourd'hui plus que jamais, quoi. On est très loin du délire de bande ou je sais pas quoi. Il est vraiment organisé. Enfin, en fait, j'apprends quelque chose à personne, hein. Ils ont leurs locaux, tout ça. Nous, après, on a des potes qui se sont fait défoncer, mais un truc de fou en sortie de concert, voilà. Mais après, c'est vrai que se pose pas le problème de les trouver dans les concerts ou je sais pas quoi. Il suffit juste de pas trop se balader à Saint-Jean, affiché, mais bon. Moi, ce que je veux dire là-dessus, c'est que j'ai pu capter même des anciens faf ou je sais pas quoi de cette époque-là. Limite, il me paraîtrait presque sympathique, en fait. Par rapport à ce que c'est aujourd'hui, c'est quelque chose de froid, très loin d'une culture rock'n'roll et tout. Je pense que les faf à l'époque, j'imagine, moi, j'ai entendu parler sur Lyon des rebeux parmi eux, quoi. Des trucs, sûr,
comment, on avait la bande à Farid.
Ouais,
à
voilà.
Paris,
ou... quoi, ouais, enfin, voilà. Et... Non, ouais, c'est qu'il y a une espèce d'alliance aussi à Lyon entre les espèces de prolo au faf et puis tous ceux qui ont les moyens, quoi. Le vrai fascisme lyonnais catholique ancré depuis des années dans la région, qui est avec les mecs du stack des gros badabeux, quoi, des débiles, mais dangereux, quoi. Voilà.
Et je voudrais revenir sur la musique, quitter ce... Ou tu veux dire un mot, Fred, sur cet aspect?
Alors, j'aurais bien. C'est vrai que Laurent a tout de suite enchaîné sur le punk et la politique. Et je serais bien revenu quand même en arrière, parce que j'ai un vieux copain, Laurent Dieux, qui est là. Et on a quand même aussi été des punks collégiens, donc à 13-14 ans. Et c'était, alors bien sûr, hein, moi j'ai eu très tôt une conscience de classe, et puis tout de suite compris que ça allait être compliqué, quoi, la vie, hein, que ça allait, c'était pas facile pour tout le monde. Mais les mercredis après-midi, quand on sortait du collège, c'était des balades en centre-ville. Et alors voilà, quoi. C'est vrai que les looks n'étaient pas très développés, hein, parce qu'il n'y avait pas forcément grand-chose. On avait peut-être pu s'acheter une paire de chaussettes fluorescentes ou un t-shirt des Pistols ou des Clash. Ça pissait pas bien loin. En tout cas, effectivement, les Perfectos étaient inaccessibles. Mais quand on se promenait en ville, on rencontrait d'autres jeunes, d'autres adolescents, avec un peu les mêmes looks, on se reconnaissait, et on discutait, on engageait conversation, et on était quand même pas très 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 nombreux, mais il y avait quand même des bandes dans chaque lycée, à La Martinière, Montplaisir.
Moi
à Lumière.
Quand je t'ai rencontré, j'étais déjà à Cassos, mais c'est vrai qu'il y avait, ce côté sympathique là, quoi, mais il y avait aussi des petits cons qui essayaient de braquer les gens.
Tout à fait, c'est pour ça que je voulais repartir de là, effectivement, en centre-ville. Il arrivait couramment des jeunes adultes nous braquent. Ça allait pas.
Mais même pas, tant que même pas les mecs, ils essayaient de braquer tout ça. Je vais pas te dire les noms, c'était même pas des gens à problème des cités, quoi. C'était des petits bourgeois qui voulaient se la jouer, qui voulaient se la jouer boyou et qui essayaient de nous braquer. C'était ça, ces gens-là, quoi.
Je propose de revenir sur la musique, sur cette première génération qui, quand même, est montée à Paris pour jouer en juillet 78 au Rock d'ici à l'Olympia. C'est-à-dire, on a vu Star Shooter, Electric Callas, Marie et les Garçons, enfin ces groupes emblématiques de la scène lyonnaise. Qu'est-ce qu'ils sont pour vous aujourd'hui qu'est-ce qu'elle représente cette génération parce que c'était très très éclectique. Quand on voit le deuxième 40 maxi de Electric Callas qui s'appelle So Chic, qui est de la disco punk, ou on part carrément dans tout à fait autre chose.
Pas trop disco, mais qui sont plus proches de ce qu'on appelle la New Wave.
Ce que tu nous as fait écouter, c'est purement de la New Wave. C'est vrai que nous, on ne se reconnaissait pas du tout dans ce truc-là.
Nous non plus.
Non, mais c'était quand même... Alors, moi, j'ai entendu des intervenants un petit peu citer leur discothèque. Moi, de mémoire d'ado, c'était quand même compliqué d'avoir des disques. J'avais la chance d'avoir une grande sœur qui avait quelques disques amenés par son petit copain d'époque qui était venu habiter à la maison. Donc j'avais pu effectivement écouter les Pistols, les Clash, les Cramps, les Dogs. Mais j'ai souvenir aussi qu'adolescent, c'était quand même compliqué de choper des disques, d'avoir des disques. Effectivement, je me souviens d'être sorti de la Fnac en volant le premier album des Caméras Silence et en train de frimer devant les potes, et il y avait le vendeur de la Fnac pile devant moi, je m'en étais pas rendu compte. J'étais en train d'expliquer à tout le monde que je venais de tirer le premier album des Caméras. Mais bon. Et à Musicland aussi, je le regrette un petit peu, mais j'avais chouré le premier album des Specials. J'avais volé, j'en ai volé d'autres, j'ai volé le premier album des Ludwig aussi, pareil, en 85-86. Pouah, c'était. J'ai pas volé les autres. Star Shooter, ça. Quand même, je disais que c'était compliqué d'avoir des disques parce que j'ai souvenir que. C'est un petit peu un rapport avec la société de consommation où la culture n'était pas si accessible que ça. Il n'y avait pas de démocratisation en cours. Et pour aller chercher des disques à la discothèque de la Pardieu. Il fallait montrer patte blanche, il fallait arriver avec son saphir. Le discothécaire qui faisait loi regardait avec une loupe ou je sais pas quoi si tu avais le droit d'emprunter les disques. Et tout cela, bien évidemment, c'est si tu avais un saphir. Donc ça voulait dire que tu avais une chenille à la maison. Hein. Et c'était pas le cas de tous les ados. Et voilà.
Bon, il y avait aussi Feedback, par exemple, sur Inter. Je crois que c'était sur Inter. Où c'est là, moi, j'ai pu écouter à 15 ans, et donc avec une cassette enregistrée. Elle parlait des cassettes. Moi, j'avais que des cassettes. Hein, effectivement, les premiers vinyles,
tu les achètes.
Je les ai achetés.
T'as pas d'argent de poche.
Je les ai achetés d'occasion ou tout ça. Mais les premiers groupes punk, moi, j'écoute. Ouais, voilà, Star Shooter, Edith Nylon, Metal Urbain. Hein, c'est en gros ça. C'est les premiers trucs qui nous ont causé. Ok, et en plus c'est en français. Et il y avait quand même, notamment Metal Urbain, une urgence à faire quelque chose. Voilà. Après, quel regard on a sur ces groupes-là, notamment Star Shooter. J'ai beaucoup de respect pour Kent ou Marie, qui n'est plus là. Nous, ce qu'ils ont fait, c'était surtout ce qu'il ne fallait pas qu'on fasse. C'était évident que ce n'était pas ça qu'il fallait faire, notamment signer sur CBS et tout. Pour nous, ce n'était pas ça. En plus, nous, on ne se considérait pas comme musiciens. Nous, on était là pour... La musique, c'était un vecteur pour causer aux autres. C'était une façon d'être au monde et c'était pas du tout, on ambitionnait pas de faire des carrières ou je ne sais quoi. Moi, je suis allé à l'école de musique quand j'ai arrêté une brigade, donc juste pour continuer. Donc, mais au début, on savait pas jouer, on s'en foutait, c'était pas le problème. C'était très bien de faire des disques comme ça, mais en fait, nous, ce qui comptait vraiment, c'était ce qu'on allait faire dans le squad, dans le fanzine, dans le voilà quoi, et d'être en réseau. C'est vraiment ça qui comptait. Donc ce qu'ils ont fait avant, très bien, ils ont ouvert une voie qui nous a vraiment causé dans le poste, mais nous on était pour les, voilà, les labels indépendants, il y a eu Bondage, il y a eu plein de labels, le label des Tugs, Black et Noir, quoi. Bon, magnifique. Et on s'est retrouvés en réseau, autant pour aller jouer au foot à Angers, dans les tournois de foot avec les RA, les Shérifs, Parabellum qui arrivait. C'est là qu'on a rencontré Virginie, qui est devenue Virginie Dépendante. Elle sortait du camion de Parabellum, elle avait un espèce de truc rose comme toi, tu vois, comme ça, quoi. Et c'était ça, voilà. C'était plus un truc de franche camaraderie partout en France. Voir partout en Europe, et pas du tout un truc. C'était pour créer une espèce de vie autrement, en fait, hein, un truc à nous, et en accord avec nos idées. On savait très bien qu'on n'allait pas passer dans les radios nationales ou dans les maisons de disques. On s'en branlait, en fait, complètement. Ouais. Je reviens au truc de madame, on s'en branlait vraiment de tout ça, quoi. Le truc, c'était faire ça à notre façon. Et après, il y a effectivement des gens qui nous ont beaucoup plus aiguillés au niveau de voilà, mais alors ça c'est par exemple Berrier Noir, mais c'est aussi les Redskins. Moi je me rappelle d'avoir été en tête de manif en 86 à Paris avec le chanteur des Redskins, j'avais 20 ans, j'étais les Redskins, quoi, voilà. Et puis après, ben Minor Threat, Fugazi, des mecs qui montent un label qui s'appelle Discord, qui vendent des millions d'albums dans le monde et qui restent alternatifs, hein, qui restent indépendants. Donc c'est pour ça que moi, enfin pour moi tout ça continue encore maintenant à fond, quoi.
Voilà. Et ben on va terminer là-dessus.
Je remarque quand même rajouter. Alors c'est vrai que moi j'étais ado dans les années 80, donc il y a quand même quand t'es ado et qu'il y a une nouvelle vague punk qui arrive et moi je la vis pleinement, quoi, avec l'arrivée des Cadavres. Plus tard Parabellum, etc., les cafards, No Class, les compiles qui sortent chez New Wave, les héros du peuple, Parabellum, etc. Mais je voulais rebondir aussi sur ce qui a été dit tout à l'heure sur les punks. Effectivement, c'est une ouverture musicale. Et moi, ça, je confirme. Non seulement le punk m'a permis de découvrir ce qui s'était passé avant, le Garage 60s et compagnie, et surtout un truc que
c'est
j'ai
une porte d'entrée culturelle quand même aussi
totalement sans parler de la littérature, etc. On pourra en reparler aussi. Ce que je veux dire musicalement, ce sont des groupes tels que les Redskins que Laurent vient de mentionner, mais c'est aussi d'autres groupes français qui lors de leur premier album avaient fait partie de l'explosion punk française avec les Berru, aux côtés de Berru, et qui, sur leur deuxième album, s'orientent différemment. Et pour moi, c'est un petit peu la deuxième gifle de mon adolescence. C'est le deuxième album de Camera Silence, qui est une ouverture sur la soul, de la power soul et du reggae. C'est la Souris Déglinguée qui aussi commence à jouer des trucs jazzy, plus soul, plus reggae. Nuclear Device qui arrête le punk, ils font bien parce que ils font un superbe deuxième album plutôt reggae rock, Core Tattoo qui pareil, etc. Donc il y a une nouvelle génération qui est issue du punk et qui s'ouvre. Alors il y en a une qui file tout droit vers le New York hardcore et il y en a une autre qui moi en tout cas m'a intéressé, c'est celle qui s'est tournée vers la soul, vers le reggae, etc. Et si je dis ça, c'est parce que dans ces groupes, dans Camera Silence, dans le deuxième album Camera Silence, c'est pas un album de reggae. C'est un album de reggae joué par des punks, comme Bernie Gates l'a fait 10 ans plus tard. Et quand Camera Silence fait de la soul, c'est pas de la soul, c'est pas Diana Ross qui joue. C'est des punks qui jouent de la soul et j'ai trouvé ça, moi, très intéressant. C'est-à-dire, c'était une énergie punk. Voilà.
Mais n'empêche qu'on reste, on reste bien quand même entre petits blancs, machin, quoi. Enfin, quand on va dans les concerts, c'est super bien d'aller voir des concerts de soul, mais quand tu vois qu'il n'y a pas de blacks et pas de machin,
je confirme.
Il y a quand même un côté, on a peut-être eu accès à la culture aussi parce que nos parents étaient militants politiques ou parce qu'on avait des potes qui étaient des grands frères qui écoutaient Star Shooter.
Mais c'est vrai aussi pour la scène.
J'ai dit qu'il fallait pas refaire ce qu'avait fait Star Shooter, mais pour nous, Star Shooter, c'était une vraie porte d'entrée, c'était nos grands frères, quoi.
Mais je sais plus lequel de vous a parlé de Carte de Séjour, faut pas oublier ce groupe.
Oui, voilà.
Qui était quand même quelque
chose. Carte de Séjour était aussi des grands frères pour nous.
Mais j'aimerais qu'on revienne. D'abord, je te rassure, ce que j'ai fait écouter, j'achetais pas les disques. J'avais un pote qui travaillait dans une radio et qui m'a fait des cassettes boîte avec les 45 tours que lui filaient les groupes. Et donc j'ai gardé ces archives-là. J'en ai acheté une ou deux fois dans un concert à Petersen, notamment, j'avais. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a une scène qui a émergé du punk et qui derrière, a essayé d'avoir des vrais concepts musicaux. On n'a pas beaucoup parlé de musique dans cette table ronde. Et j'aimerais qu'on revienne là-dessus pour terminer, peut-être. C'est qu'il y a deux groupes qui avaient des concepts qui, moi, me fascinaient parce qu'il y avait quelque chose derrière de construit. Il y avait Aurelia Kreit, qui fonctionnait à partir d'une histoire. Ils avaient créé toute une histoire de cette petite fille, etc. Et puis, il y avait l'Enfance éternelle avec l'asso qui était les Enfants du Paradis. Je ne me souviens plus comment elle s'appelait. Et derrière, moi, ça me fascinait parce qu'il y avait vraiment une construction qui se faisait. C'est-à-dire qu'il y avait une asso. J'ai revu ton disque à la bourse au disque, là, rue Lanterne. Ils le vendent 70 balles, hein, d'ailleurs, je te dis. Va demander le pognon parce que je crois qu'il y en a besoin. Ils en ont deux, ils les vendent très très cher. Mais derrière, il y avait comme une sorte d'article de journal qui expliquait l'assaut. Et puis derrière, il y avait le concept musical. Je ne sais pas, tu pourrais peut-être nous en parler un peu de tout ce qu'il y avait derrière et qui peut-être intellectualisait tout ça. Mais peu importe, ça faisait partie de cette mouvance et du do-it-yourself de départ qui permettait à des gens, sans savoir forcément jouer au départ, de concevoir des trucs qui étaient plus simplement dans la lutte, dans le machin, etc. Mais d'avoir de vrais concepts artistiques derrière tout ça.
On va lui laisser terminer justement au doyen de cette table.
du coup, qu'est-ce que je peux dire? Enfin, c'est vrai que nous on est parti du punk assez tôt. En fait, en 78 jusqu'à 82 à peu près. Et après, on s'est vraiment orienté vers la MUF, quoi. Donc, on a été clairement, voilà. Donc ça, ce passage-là, on l'a raté, quoi. Enfin, on l'a raté. Voilà, c'est comme ça, quoi. Et du coup, c'est vrai qu'après, on a essayé avec l'Enfant Stanel de faire vraiment, dès le départ, un concept, en fait. C'est-à-dire avec des looks, des machins, des trucs. Voilà. Et on s'est vraiment entouré de gens. Enfin, tu parlais tout à l'heure de gens autour. Mais c'est vrai qu'on était comme les Bérus, hein. Je veux dire, on était vraiment plein, quoi. Et voilà, c'était ça, quoi.
Parce qu'il y a plusieurs formes de punk. Parce qu'il y avait le punk conventionnel et il y avait plein de tendances exclusivement punk français qui nous intéressaient pas parce que ça avait vraiment pas joué, c'était très bien. Mais il y avait aussi le punk indus. Nous, en fait, en 79, c'était TG pour moi. C'était du punk indus, c'était déjà beaucoup plus radical. Et c'était tous des punks à l'origine.
Fabien Gustel, c'est ça?
Et c'est 79, TG, Genesis Spirit, c'est 79.
Ah, mais là, on est déjà dans le... Dans l'avant-garde extrême.
Ouais, mais pour moi, se situer là.
Ouais, ouais.
Donc,
c'est vrai que...
Il y avait un côté MJC, des fois.
Ouais, ouais, tout à fait. Non, mais c'est vrai que...
Ouais, mais nous, on parlait de punk français. Et les trucs qui nous causaient, c'était aussi des trucs écrits en français. C'est pour ça qu'au début, on avait balancé des citations. Par exemple, la souris, ils écrivaient « Ils ne veulent pas de toi dans leur surprise partie parce que ton père est communiste et ton frère est garagiste. » Eh ben voilà, ça c'est vraiment du pain, quoi. Voilà.
Et on va terminer par cette belle citation de la souris.
Il y avait aussi la jeunesse emmerde le Front National des Bernard Yannoir. C'était pas mal aussi.
C'est
ça.
Pas moi qui... Alors on va se marrer cet après-midi, Marie-Claire, on va se marrer cet après-midi aussi.